relou un peu la musique là, non?
Et quand il y a la lumière rouge, c'est pas que ça commence, genre?
Si, normalement si, ouais. Là, ah, faut pas le dire, peut-être que c'est relou. Alors attends, je vais faire une step là. Bon alors,
comment ça fonctionne?
T'as des boutons partout, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Elle a dit ou chaud, je sais pas trop.
C'est chou. C'est très très chou.
C'est très très chou, ouais. Alors attention, c'est l'heure, alors.
Heureux, je fume le narguilé.
Yes.
Aux arabesques.
Prêt.
Pétard, le narguilé aux arabesques délicates.
Tu lances un fin top départ, genre, pour voir ce que...
Tu veux que je fasse un top départ maintenant?
Ouais, vas-y.
Genre, pip, 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 pip. Fight.
Quelle idée de l'homme avez-vous? Eh bien...
Ouais. Tu vois cet éclat dans leurs yeux?
Gab.
Avant notre combat, je me suis entraîné à fond, mais j'avais pas ce regard-là. Toi, tu l'avais. Et tu as gagné. Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Eh bien... Bonjour chez vous. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud, c'est l'émission Avis d'ordure qui commence, émission 7.2.2, émission un petit peu particulière ce soir en effet. Alors l'équipe n'est toujours pas au complet, j'ai failli dire, ah oui, bon j'avais écrit ça, tu vas pouvoir évaluer la qualité de l'humour, j'ai mis l'équipe n'est toujours pas au riz complet.
Ah waouh, on part sur... Okay.
C'est histoire de mettre la barre très basse, comme ça je me dis qu'il y a aller plus haut. Steph est toujours pas là, il est toujours en méditation. Big up Steph, et puis t'as vu en fait à la dernière, on a carrément parlé de toi, t'es devenu une expression populaire, à savoir faire une Steph.
Parce que tout à l'heure, vous parlez d'espace safe, et quelque part, et on, là moi je fais une Stéphane, c'est-à-dire que je vais reprendre plein de choses qui se sont dites...
Qu'est-ce que ça veut dire faire une Steph? Ça veut dire que tu reprends plein de trucs qui ont déjà été dit. Et puis tu les rends un petit peu plus sensibles, tu les stéphises, tu les stéphanises en fait, tu les émo-stéphises. Voilà, c'est la nouvelle expression à la mode, faire une steph. Mais ce soir, avec nous, dans les studios, de retour, Gab.
Fighting out of the blue corner, 38 victories, including 27 knockouts, with 6 defeats. From Tijuana, Baja California, Norte, Mexico, the three-time champion of the world, El Tornado de Tijuana.
Gab, l'agile pop,
okay.
Qui fait référence quand même à une private joke avec agile que personne ne peut comprendre.
Voilà.
Qu'est-ce que la méthode agile ?
La méthode agile est un outil qui regroupe plusieurs méthodologies, concepts et pratiques dédiées à la gestion de projets.
C'est comme les singes, pareil. Personne ne peut les comprendre.
Personne ne peut les comprendre. Non, c'est vrai, tu crois ?
Moi aussi, je pense qu'entre singes, ils se comprennent quand même.
Ah, bah, j'espère. Bah, y a un langage universel peut-être du singe, je ne sais pas quoi.
C'est peut-être très région dépendant, je ne sais pas.
Bon, en tout cas, tu m'as expliqué ce que c'était le langage agile, mais bon.
Ce manifeste a été créé en 2001, à l'origine pour le domaine de l'IT et des logiciels, mais aujourd'hui, la méthode agile a été déclinée en plusieurs méthodes de travail.
On n'est pas obligé. Faire l'impasse. En tout cas, merci d'être là, c'est cool, c'est le retour.
Et avec plaisir. Alors, c'est très étrange parce que du coup, je suis seule dans un studio avec une pyramide avec 4 micros devant moi. Et derrière une vitre, il y a une personne qui me parle et que j'entends dans mon casque et qui me fait des petits coucous.
Coucou, ouais, c'est bizarre.
Voilà. Ça a sonné. Ça a sonné, on est tous les deux en émission.
C'est énorme.
Du coup, on va mettre de la musique et on va aller ouvrir.
Exactement. Alors, ce qu'on fait, je pense que c'est les clés qu'on a vues.
Ouais, c'est vraiment l'émission de la rage
totale. Bon, alors, attends, ce qu'on fait, tu veux écouter quoi ?
Viens, on met ma cache, on a 30 secondes.
Ouais, 30 secondes, top chronomètre, on voit si c'est possible. Eh, vas-y.
C'est parti, on lance ma cache.
3, 4, ma cache.
Le timing.
Il faut tout savoir faire ici, quoi. Il ne reste plus qu'à savoir faire de la radio et tu vois, déjà, je sais aller ouvrir des portes, des trucs comme
et
ça.
Franchement, et tu sais mettre de la musique sur les ondes et dans mon casque en même temps.
Trop bien, c'est vrai, c'est passé. Donc, ça, c'était ma cache.
C'était bien, hein.
C'était super bien. Ma cache, si tu nous écoutes, salut. Hein. Avant de rentrer un petit peu tranquille dans l'émission, je me disais qu'on pouvait s'écouter le fameux, tu sais, il y a une espèce de rituel ici, c'est le fameux salut à toi. D'ailleurs, tu as participé au salut à toi.
J'ai participé au salut à toi, ouais.
Donc, j'ai fait une espèce de petite compile qui reprend un peu, toi, l'actualité, passé, présente et à venir. Et on peut s'écouter le futur tube.
Des béliers rouges à pois blanc.
Salut à toi. J'ai paumé celui de Grief. Grief, on va revenir.
Salut à toi la chauve-souris.
Salut à toi le petit chaton.
Salut à toi le capitaine Haddock.
Salut à toi Chris Dodge.
Salut à toi 666.
Salut à toi le gymnase du lycée.
Salut à toi Transpédéguine.
Salut à toi la sorcière qu'ils ont pas réussi à brûler.
Salut à toi maman qui m'a appris à répondre à tous les connards dans la rue.
Salut à toi la friteuse.
Salut à toi vie d'ordure.
Salut à toi Virgin Mary.
Salut à toi Philippe Buty.
Salut à toi la dame de Haute-Savoie.
Salut à toi Louise Michel.
Salut à toi petit caillou.
Salut à toi, gros pavé tout dur.
Salut à toi, Marseille.
Salut à toi, Juju Chocolat.
Salut à toi, Virginie Despentes.
Salut à toi, qui a la dalle.
Salut à toi, le yoga anticapitaliste.
Aïe, 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 pas mal. Il y a du lourd.
Il y a du très gros niveau, là.
Ouais.
Et il y a des petits cailloux aussi.
T'as reconnu quelqu'un ?
Non. Mais surtout qu'en plus, il y a les personnes d'avant qui n'ont pas eu leur salut à toi. C'est triste, quoi. C'est quoi leur nom? Mais si, regarde, on va faire ça. C'est quoi leur nom?
Ah, c'est Ludo et Quentin.
Et bah, du coup, on fait salut à toi, Ludo et Quentin. Et comme ça, ils sont comme un peu là.
Ah, yes, joli, ouais. Alors, vas-y, refais-le comme ça.
Salut à toi, Ludo et Quentin.
De Grief.
De Grief. Salut à toi, Ludo et Quentin de Grief.
Trop bien, bon, ça c'est classe, ça c'est fait. L'idée en fait de ta venue parmi nous, c'était, puisque je l'avais un petit peu évoqué la dernière fois quand tu étais venu pour la BAF, j'avais passé un son sur la boxe, parce que je sais que c'est un domaine, une discipline, un sport, je sais pas trop comment tu considères...
A way of life. Voilà.
Un way of life de
skin. Non, pas du tout. Un way of life de skin.
Je sais que t'es passionné de boxe, et je me suis dit que c'est la possibilité d'ouvrir une page punk et sport, tu vois.
Mais parfait.
Sport et politique... Et t'étais la personne idéale pour parler de ça.
Oh bah là, je suis toujours la personne idéale pour parler, après. je fais ça très souvent.
C'était la personne idéale pour en parler de plein de trucs. C'est cool.
Un peu trop souvent.
Oui, donc, tu pratiques la boxe.
Je pratique la boxe thaï, ouais.
La boxe thaï. Tu peux nous expliquer la différence entre la boxe thaï et la boxe pad thaï, par exemple?
Ah ouais, alors la boxe pad thaï, c'est vachement moins bien. Non, pas du tout. Il y a plein de boxes différentes à travers tout le monde. Enfin, de tout temps et par tout lieu, les gens se sont foutus sur la courge. Pour pas trop se faire mal, ou parce qu'ils n'avaient pas d'autres trucs, ils ont fait ça avec leurs mains et leurs pieds. Et parfois aussi leurs genoux, leurs coudes, leurs têtes et les dents, mais ça on fait plus trop. Et du coup, il y a eu plein de boxes différentes qui sont apparues dans tout le monde. Alors j'improvise total, hein, donc si je dis des conneries, on va m'arrêter. Et du coup, il y a plein de types de boxes différents qui sont apparus et qui ont été rendus des sports au fur et à mesure du temps. Donc essayer de moins se faire mal et de plus faire de la grosse marade et des trucs plutôt sympathiques où les gens peuvent revenir sur le ring après avoir perdu, sans être mort, par exemple. Et du coup, il y a trois grandes boxes qui sont très connues. La boxe anglaise, où on va utiliser que ses poings. La boxe française, où on va utiliser ses poings et ses pieds. Et la boxe thaï, où on va utiliser ses poings, ses pieds, ses genoux, ses coudes. Et on va aussi s'attraper au corps à corps pour essayer de faire tomber l'autre. Ouais, donc c'est les trois grandes boxes. Après il y a d'autres trucs, il y a de la boxe chinoise, il y a plusieurs boxes chinoises, il y a plein d'autres boxes. Mais voilà, ça c'est la définition de la boxe thaï, c'est un sport de percussion avec des pieds, des poings, des coudes, des genoux et de la saisie au corps à corps, qui s'appelle le clinch. Bisous Aurélien pour le clinch.
Pourquoi d'un coup les sports de combat, avec ce que ça peut représenter aussi, ont été revendiqués, par exemple, sont beaucoup plus présents et surtout ont une dimension politique.
Waouh.
Voilà, pourquoi? Alors, on peut commencer
déjà. C'est une grosse question, là.
Non, mais à travers ton témoignage, pourquoi toi, tu t'es dit un jour, tiens, je vais faire de la boxe et pas du vélo. Alors que tu fais du vélo.
Je fais du vélo aussi.
Et pas, je sais pas, du ping-pong ou tu vois.
Ok.
Parce que c'est pas anodin, quand même, le choix de cette discipline. Quoi.
Ouais, c'est clairement pas anodin. Du coup, je vais en profiter d'être à la radio pour raconter ma vie.
Super.
C'est
toute la nuit
pour but,
ça.
C'est ça.
Ouais, carrément. Okay. Cool.
Bon, en gros, moi, j'ai qu'un seul œil qui fonctionne. Et du coup, je vois pas en 3D. Voilà, c'est de base. Donc tout ce qui a été sport de ballon, de balle, de raquette, de volant, de cage, tout ça, j'ai jamais pu faire. Parce que du coup, je vois pas où ils sont les ballons dans l'espace. Donc la plupart du temps, je me les prends dans le nez ou sur le côté de la figure. Enfin, c'est rarement très agréable. Et du coup, j'ai jamais pratiqué de sport parce que je pouvais pas faire tous ces sports d'équipe et que ça me faisait un peu bizarre de... Enfin voilà, je me suis vachement repliée dans ma tête quand j'étais gamin et du coup j'étais dans le club des intellos, quoi. Je faisais pas grand chose avec mon corps, c'était un peu un truc mou qui était raccroché à mon cerveau et qui me servait à me déplacer pour faire des trucs et à tourner les pages des livres. Mais j'aimais quand même vachement être dehors, faire des randos, des trucs comme ça. Je viens d'une famille qui est quand même assez active. J'étais pas non plus complètement amorphe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé secondaire. Et du coup, j'ai jamais fait de sport par moi-même, jusqu'à la fin de mes études, en gros. J'ai toujours fait du sport parce qu'il fallait en faire. En gros, c'était un peu un truc obligatoire, soit dans les études, à l'école, au collège, au lycée. J'ai réussi à me faire dispenser de badminton au bac, d'ailleurs, grosse victoire. Mais c'était quelque chose qui faisait pas trop partie des choses qui me donnaient envie. Et le premier sport que j'ai fait par moi-même, c'est très bizarre, c'est du naginata. Qu'est-ce que c'est le naginata ? Je sais pas si vous voyez ce que c'est, le kendo. Donc, en gros, c'est un sport de sabre japonais qui est très codifié. Et le naginata, c'est un peu la même chose, mais avec une lance qui fait 2,17 m. Voilà. Donc on se mettait sur la courge assez virtuellement, parce que c'est assez vénère comme truc. Du coup, on fait plutôt des chorégraphies que du combat. Et j'ai commencé du coup à faire du naginata pendant un an. Et c'était super chouette parce qu'en fait, c'était la première fois que j'utilisais mon corps en pleine conscience de mon corps. Et c'était fort chouettos parce que du coup, je me suis rendu compte que je pouvais manier un bâton de 2,17 m pour taper sur la tête de quelqu'un qui était un peu plus loin. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Après, j'ai déménagé, je suis arrivée à Toulouse. Et pendant un an, deux ans, je n'ai pas fait de sport. Et après, j'ai rencontré le féminisme qui m'a dit... très grosse maille, parce que c'est pas ce que je pense, et c'est plus ce que je pense en tout cas, qui m'a dit arrête d'être une proie, défends-toi, auto-défends-toi. Ça, c'est toujours ce que je pense. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire des sports de combat et de l'auto-défense. C'est un truc qui me parle. Et là, j'ai rencontré le Systema, qui est un art martial russe d'auto-défense, dont il y avait des cours à Toulouse, juste à côté de chez moi, donc c'était fort pratique. J'y suis allée un peu en curieux, et ça m'a grave plu. J'en ai fait deux ans, un an et demi, et c'était très chouette. Et sauf qu'en fait, le truc qui m'a un peu gênée, c'est que à la fois c'était très chouette, et à la fois il me manquait un peu quelque chose, c'est que dans ce sport-là, on réutilise des mouvements qu'on sait déjà faire. Et comme je savais pas mettre un coup de poing ou ce genre de choses-là, j'avais l'impression que ça me manquait. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire de la boxe. Et du coup, j'ai fait un an de boxe française. J'ai trouvé ça fort chouette de faire de la boxe française. Et à la fin de mon année de boxe française, je me suis dit, c'est cool, mais j'ai envie de faire un truc un peu plus vénère. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des cours de boxe thaï pas très loin de là où j'habitais, genre littéralement deux rues à côté, avec des entraînements très cardio, des entraînements qui durent 3 heures, 3 fois par semaine. Et là, je me suis dit, tiens, ça m'a l'air d'être une bonne chose par rapport à mon hyperactivité, on va faire ça. Et ça a coïncidé aussi au moment où j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon genre. Et du coup, maintenant, je fais de la boxe thaï et je suis non-binaire. Voilà. C'était ma vie en accéléré. Et je vois toujours qu'avec un œil, par contre.
Ouais, donc malgré tout, ton parcours indique aussi, j'ai l'impression, ton rapport à l'outil qui évolue en fait. Tu as voulu utiliser à un moment donné pour te défendre en fait, pour revendiquer quelque chose en tout cas, pour peut-être te sentir apte au conflit, à la violence aussi. Tu parlais que c'était aussi à travers l'engagement féministe.
Ouais. Et bah ouais, carrément. En fait, c'est marrant parce que du coup, tu faisais le lien tout à l'heure entre sport et punk, et notamment sport de combat et punk. Et moi, il y a vraiment cette idée de l'autodéfense qui me semble vachement intéressante, dans le sens où le punk, il a dû se défendre pour exister dès le début, que ce soit en étant plus fort, plus rapide et plus vénère que toutes les autres musiques, en étant plus destroy, plus ouvert aussi. C'est une musique qui, depuis le début, en tout cas pour moi, après, je pense que tout le monde a sa vision du punk, mais c'est une musique qui a toujours dû combattre pour exister et qui combat encore aujourd'hui pour exister. Et du coup, je trouve que cette question de l'autodéfense physique, Elle reboucle bien avec le punk, même si l'autodéfense physique c'est pas que ça le punk, heureusement. Et il y a plein d'autres trucs dedans, heureusement. Mais du coup, le fait que ça se rapproche, je trouve que c'est un des atomes crochus qui peut faire que sport de combat et punk, ça peut se retrouver.
Ouais, carrément, ça match quoi, autodéfense intellectuelle et autodéfense physique.
C'est ça. Enfin, je trouve, après, c'est peut-être juste ma vision à moi.
Hein. Et tu parles de violence, là. Il a fallu aussi pour toi peut-être maîtriser la violence des autres, faire face aux autres. Est-ce que tu as dû aussi faire face à ta propre violence, en fait? Est-ce que tu as découvert, enfin, toi, tu as été à la rencontre aussi de ta violence?
Ouais, je pense qu'il y a un... En tout cas, dans mon parcours, je ne sais pas pour les autres gens, mais je crois qu'il y a aussi une découverte de... du fait que j'étais capable de créer de la violence, ouais. Et que j'avais de la violence en moi et que je pouvais la laisser s'exprimer de manière bienveillante et canalisée, etc., etc. Et qu'en fait, j'étais pas privée de violence comme je l'avais longtemps pensé, que j'étais pas une personne qui ne savait pas faire ce genre de trucs-là. En fait, j'avais ça en moi et que c'était aussi une force. Enfin, la violence, c'est... Bon, c'est très philosophique comme truc, mais la violence, c'est quand même quelque chose qu'on a tous et toutes en nous, à mon avis, et que on peut exprimer de diverses façons, plus ou moins cadrées, plus ou moins bienveillantes aussi. Hein. Clairement, tout le monde ne le fait pas avec autant de bienveillance et d'amour. mais en fait, le fait de savoir qu'on en a, moi, ça m'a aidé sur plein de trucs, parce que la violence que j'exprimais pas, clairement, c'est quelque chose qui me manquait, quoi. Je m'en suis rendu compte à partir du moment où j'ai pu exprimer cette violence-là, que du coup ça m'aidait à être beaucoup plus serein sur plein d'autres trucs, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu bizarre de parler de ça à la radio. je vais me mettre sur le divan, sur le côté, là.
Tout le monde va s'interroger par rapport à ton parcours, par rapport à sa propre relation à la violence. J'ai l'impression que le fait de te dire, admettons, je maîtrise, c'est-à-dire je maîtrise même ma peur, suffisait plus. C'est-à-dire t'es rentré dans quelque chose où la boxe tight t'amène c'est une autre dimension, une nouvelle dimension, quoi.
Ouais, carrément. Bah, en fait, c'est à la fois une autre dimension et un peu une gradation.
Ouais.
Dans le sens où de toute façon, je serais jamais arrivé à la boxe tight si j'étais pas passé par ce que j'ai fait avant, ça c'est sûr. Et j'irai peut-être vers d'autres choses, ou je retournerai peut-être vers d'autres choses que j'ai vues avant. C'est pas une finalité, la boxe taille en soi. On est tous dans des parcours, et actuellement je suis à ce point-là, mais j'irai peut-être ailleurs plus tard. Et ouais, carrément, il y a une sorte de gradation. Ce que je disais par rapport au fait que j'avais envie d'avoir des entraînements plus intensifs, d'avoir envie d'être plus mise en défaut sur certains trucs, d'être plus attendue sur notamment sur justement sur ce qu'on appelle la violence, qui était très maîtrisée en fait dans les cours de boxe française que je faisais, parce que j'étais à un niveau où l'entraîneur estimait que c'était important de rester dans des niveaux de violence maîtrisés, etc. Et ce que je comprends tout à fait, c'est l'entraînement que j'ai reçu était vraiment très très bien et tout, mais j'avais vraiment envie de dépasser un peu cette phase là et d'aller dans un truc un peu plus contact, quoi. Et ça m'a fait vachement de bien, et c'est très bizarre, mais j'ai l'impression de refaire les trucs de, tu sais, genre tous les témoignages de ma vie c'était pourri, ouais. Et après j'ai rencontré le sport et maintenant ma vie elle est trop bien. Faites du sport si vous en avez envie, n'en faites pas si vous n'en avez pas envie. Je raconte juste ma life, hein. Je donne de conseils à personne. Surtout me prenez pas pour un gourou sport chelou. Manger 5 fruits et légumes par jour.
Non, en plus, on va être dans la critique du sport. Enfin, de brochures
il faut.
Qui réfléchissent autour de la notion de sport, de l'asservissement aussi.
De toute façon, le sport, c'est une partie de la société. Donc quand on l'examine, on voit dans cette petite facette... le poids de toutes les autres. Hein.
Oui, parce que malgré tout, bon, ça, le fait de canaliser, ça canalise aussi des sentiments, des expressions qui pourraient s'exprimer contre la société. Par exemple, tu vois,
Carrément.
Enfin voilà, il y a matière à réflexion, évidemment, et à critique du sport. Et toi, le fait de, d'avoir ça en toi et de te connaître peut-être aussi un peu plus, est-ce que tu te sens plus libre sur ce point ? Tu vois, le fait de peut-être d'appréhender différemment la rue, l'espace public, peut-être l'autre, est-ce que tu penses que tu t'es rapproché d'une certaine forme de liberté, mais à travers toi, la violence possible, quoi ? Tu dis, je peux être déter et voilà.
Alors, c'est marrant, mais c'est beaucoup plus intime, en fait, comme fait toucher à la liberté. Ça m'a permis de me réconcilier avec mon corps sur beaucoup de points. Notamment en me rendant compte que mon corps n'était pas juste une extension inutile de mon cerveau. Et que, en fait, maintenant, j'apprécie beaucoup mon corps et travailler avec, dans le sens où je mets mon corps en travail pour faire du sport. Mais je vais aussi mettre mon corps en travail pour plein d'autres choses. Je l'habite beaucoup mieux maintenant et je suis mon corps alors qu'avant j'étais mon cerveau et mon corps était un outil et maintenant je suis vachement plus il y a beaucoup moins cette distinction en fait entre les deux et ça me fait énormément de bien parce que du coup j'ai plus l'impression d'être un esprit qui se balade avec un poids derrière. Et j'ai vraiment l'impression d'être une personne qui occupe un espace, qui du coup a le droit de prendre cet espace-là, puisque j'ai un corps, qu'il existe, qu'il a la forme qu'il a, qu'il a les caractéristiques qu'il a, etc. etc. Et en fait, du coup, y a tout un truc sur le fait de s'ancrer au monde aussi, de s'ancrer dans le physique, dans le présent, dans le matériel, par le fait d'avoir un corps. Qui fait que du coup, il y a plein de trucs, tu vois, par exemple, faire attention à comment on se comporte par rapport aux autres, mais aussi faire attention à comment les autres se comportent par rapport à nous, poser nos limites, juste par exemple dans la posture, quand on est dans une posture d'accueil de quelqu'un, avoir conscience que son corps peut être aussi mis en jeu là-dedans, enfin, qu'il est mis en jeu là-dedans, que voilà. Et du coup, sur ce que ça m'a fait gagner en liberté, je dirais surtout que en fait, ça m'a fait gagner en conscience de plein de trucs et que c'est cette conscience-là qui m'a permis de gagner de la liberté. Et du coup, je vais rebondir un peu sur, pas le sous-entendu, mais ce que tu as dit par rapport à l'espace public. Mais en fait, maintenant, je sais que j'ai un corps, je sais que j'ai un corps donc, qui est considéré par la plupart des gens dans la société comme un corps disponible, puisque c'est un corps féminin, on va dire, enfin femelle en tout cas, qu'il est considéré comme disponible, il est sifflable, il est matable, il est probablement violable.
On peut le fantasmer.
Voilà, il est fantasmé, bon, et voilà, c'est mon corps, c'est moi. Mais en fait, je sais aussi que mon corps, il n'est pas que ça, en fait. J'ai plus que le retour des autres, j'ai aussi ce que moi j'en fais et les potentialités que je connais avec mon corps. Et le high kick en fait partie, mais mon corps il peut aussi danser, il peut aussi sauter, courir, et il peut faire plein de trucs. Et en fait, du coup, le fait d'avoir construit moi mon répertoire de choses que je peux faire avec mon corps, de comment je l'habite, de comment il est, de comment je l'habille, de comment je le transforme, comment des fois je le travestis parce que ça me plaît, parce que. De comment je vais le mobiliser, en fait. Le fait d'avoir cette liberté-là, en plus, bah, du coup, ce que m'en renvoient les autres a beaucoup moins de poids. Je sais pas si c'est clair. C'est que, du coup, en fait, j'ai un contrepoids, en fait, pour pas être juste une éponge de ce que les gens me renvoient. Et du coup, maintenant, moi, j'ai le droit aussi de dire non, en fait, je peux affirmer moi aussi des choses sur moi. Vous n'êtes pas que vous, le regard extérieur, vous n'êtes pas la définition de mon corps. J'ai une définition qui sort de moi, qui va vers l'extérieur. Et ça, du coup, dans le monde, dans l'espace public, c'est grave rassurant, en fait. Parce que du coup, quand tu te fais siffler, bah, tu sais qu'en fait, non, tu te fais siffler parce que, bon, pourquoi pas, parce que les mecs cis sont des chiens, mais toi, à l'intérieur de toi,
tu sais que c'est pas que ça qui te définit, quoi. Il y a plein d'autres trucs. Alors moi c'est le sport de combat, parce que effectivement ça met beaucoup mon corps en jeu dans les coups que je reçois, dans les coups que je mets, dans le fait par exemple de pratiquer dans une tenue, je suis en short et en brassière la plupart du temps, donc les gens voient mon corps, etc. Mais ils le voient pas pour un corps désirable, ils le voient pour un corps sportif à ce moment-là. Enfin, j'espère. Peut-être que je m'avance un peu beaucoup, mais... Et du coup, c'est cette liberté-là de pouvoir avoir à opposer quelque chose fait que, du coup, je me sens beaucoup plus... Enfin, cette force-là de pouvoir opposer quelque chose qui fait que, du coup, je me sens beaucoup plus libre, quoi.
Voilà, la construction de... Enfin, nos corps, de ton corps, passe par le regard... dans l'espace public aussi, et là t'amènes l'idée que de redéfinition du corps par les coups, en fait, c'est-à-dire c'est un peu les coups à travers la boxe. Ta force, ta puissance te fait aussi être capable, tu peux te défendre, tu peux être fort, t'as aussi une vision du corps de l'autre par les coups que tu peux donner.
Ouais, en fait c'est un peu... C'est marrant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à un autre sport que j'ai fait, qu'un autre sport de combat, qui est le grappling et le jiu-jitsu brésilien, qui sont des sports de lutte au sol. Et où là, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur mon corps, parce qu'en fait, t'es en contact permanent avec une personne. Et genre, de tes genoux à tes épaules, tu es collé à une personne. Moi, ça m'était jamais arrivé, à part quand j'étais enfant avec mes parents, et plus tard quand j'ai eu des partenaires sexuels. Mais sinon, ça m'était jamais arrivé d'être en contact aussi prolongé et aussi proche avec une personne. Et au début, ça me faisait énormément travailler, et j'arrivais pas, en fait, à faire plusieurs combats, parce que émotionnellement, ça me touchait trop. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose que j'ai vachement plus accepté, etc., etc. Et pareil, donc c'était à la période où je faisais de la boxe française. Et en fait, pareil, le fait de... En boxe française, on travaillait... les débutants, on travaillait à la touche uniquement. Donc, c'est l'intention d'un coup qui est posé, mais qui n'est pas censé faire mal. Et du coup, en fait, à travers ces premiers coups échangés qui étaient un peu plus légers, puis ce contact très prolongé, très intense de tout le corps, ou le ventre contre le ventre, ou le ventre contre le dos, ou ce genre de choses-là, qui sont quand même des contacts souvent plutôt intimes, dans le jiu-jitsu brésilien, et après les contacts plus appuyés avec la boxe thaï, on finit par se mettre quand même des pêches un peu plus appuyées, et on se prend des coups de pied quand même plus intenses qu'à la boxe française, enfin en tout cas que pour le cours de débutant où j'étais. Du coup, oui, un peu cette question de la limite du corps et de ce qu'on tolère de l'autre, de ce qu'on consent à faire d'un point de vue sportif. Et très physiquement, il y a le fait d'avoir conscience de la limite, des limites de son corps, en fait. Mais des limites, pas des limites genre sportives, mais des limites juste physiques. Enfin, où est-ce que se situe notre peau, quoi. Et de fait, ça matérialise, enfin en tout cas pour moi, encore une fois, pour moi ça a matérialisé une limite, qui était la limite, je sens où est ma peau, je sens où est le cou, où est-ce qu'il a touché, etc., etc., je sens quelle est la force qui a été mise, etc., je sens que mon corps il bouge à l'intérieur, enfin ce genre de choses-là. Et savoir cette limite-là, ça m'a permis d'en poser d'autres aussi, quoi. Par exemple, quand j'ai eu d'autres partenaires sexuels après avoir fait du jiu-jitsu brésilien, c'est super intime, je suis désolée, ça n'a pas parlé de cul, hein, rassurez-vous. Mais juste en fait, mon attitude par rapport aux personnes, donc, par exemple, s'il y avait quelque chose qui me dérangeait dans la posture d'une personne ou quoi, j'étais vachement plus en mesure de le dire, parce que du coup, j'avais conscience de tout mon corps et j'étais dans une sorte d'écoute, enfin... C'est très bizarre de dire écoute, parce que ça fait vraiment comme si j'étais déconnectée de mon corps et que j'étais genre un esprit et que mon corps était un espèce de truc dessous. Mais il y a vraiment cette espèce d'égalité, enfin de communication permanente, et que du coup je suis mon corps. Et que du coup maintenant, s'il y a quelque chose qui me gêne, ou que ce soit la moindre inconfort ou quoi, je suis capable de le dire, je suis capable de le savoir. Et c'est plus mon corps est plus juste un outil qui sert, quoi. Voilà, c'était juste par rapport au coup et à la limite, quoi. de son corps.
Voilà. C'est un apprentissage
spatial.
Ouais. Et puis voilà, enfin voilà, sur la durée. Et on parlait tout à l'heure d'archipel, et j'ai l'impression qu'on peut être aussi des corps différents en fonction des moments. Là, je sais pas quel corps tu es, voilà, quand tu es dans la pratique d'un sport, tu vois, c'est pas peut-être pas forcément le même corps qui va évoluer un peu plus tard. Et je trouve que c'est intéressant.
Ah, il suit beaucoup plus, ouais.
Ouais, mais ça aussi, la notion de mouvement du corps, de sudation, enfin voilà, il y a vachement de, aussi de d'a priori, de clichés, il y a plein de trucs, de rejets, tu vois, par rapport à la transpiration. Dans les brochures, voilà, quand c'est partagé, ils évoquent ça aussi à un moment donné sur les femmes qui transpirent, par exemple.
Et qui ont des poils.
Ouais, truc de ouf, c'est complètement pas acceptable et tolérable, quoi.
Du coup, il va falloir compter leurs chromosomes. Ah là là.
Et la vie, c'est aussi l'apprentissage, je sais pas, des imaginaires de nos corps.
Ouais. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un truc dont j'avais pas parlé, mais par rapport à la transidentité. Et tout à l'heure, j'avais parlé de travestissement, mais je me travestis pas tout le temps. Il y a des fois où je me sens plutôt féminin et je vais me travestir, effectivement. Il y a des fois où juste j'ai besoin de cacher ma poitrine, me binder et mettre mes fringues qui sont plus connotées masculines parce que c'est comme ça que je me sens. Donc, c'est pas toujours du travestissement, des fois c'est juste j'ai besoin de m'habiller comme ça. Mais du coup, le fait d'avoir mis mon corps en scène dans le sport, je peux aussi le mettre en scène dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est chouette parce que du coup, le sport, il m'a aussi permis de désacraliser, enfin, pas désacraliser, mais le fait de faire. De reprendre possession de mon corps, bah, du coup, ça m'a permis aussi de jouer avec mon expression de genre. Et de jouer avec, avec ce trouble que j'aime bien, dont on parlait tout à l'heure. Et notamment, par exemple, le fait de faire des sports de combat, comme je les pratique moi, et comme d'autres personnes trans, ou comme d'autres personnes pas trans du tout les pratiquent, c'est aussi, parfois, brouiller la limite du genre. Et notamment en ce moment, je me pose pas mal de questions sur qui je suis, etc. Mais il y a une seule chose dont je suis sûre, c'est que j'échoue très très bien à être une femme. Je suis vraiment très douée dans le fait de ne pas y arriver. Et je pense que par exemple ma pratique de la boxe est un très bon échec à la féminité telle que je la conçois. Parce que s'il y a une féminité dans la boxe, parce qu'il en existe une, forcément, il y a plein de pratiquantes qui trouvent une féminité, plein de pratiquants aussi qui trouvent une certaine féminité, elle est non hégémonique, elle est forcément... c'est une féminité alternative, et de fait, elle me permet d'échouer très très bien à être la femme, voilà.
Et alors que le sport impose une répartition absolument obsessionnelle du genre, quoi.
Ouais.
C'est vraiment les catégories sont hyper définies, et faut surtout pas sortir de sa catégorie, sinon tu peux ne pas concourir pour certaines athlètes.
Carrément.
Écoute, on peut s'écouter un peu de musique, on reparle de ça juste après. Alors, tu nous as préparé une super playlist, tu as choisi tout à l'heure, spécial dédicace, le seul morceau.
En fait, j'ai choisi 10 morceaux, du coup j'en ai choisi 11 parce que je ne sais pas faire de choix, et j'en avais mis un qui était genre juste une spéciale dédicace à Germain qui est dans le studio, hein, qui dit des bêtises depuis tout à l'heure. Et c'était ma cache. Et du coup, le reste de ma playlist, j'ai fait une playlist spéciale pour la canicule.
Ouais. Donc,
comme il fait très froid, j'ai mis que de la cold et plein de synthé parce que Germain aime pas ça.
C'est vrai que là, y a du synthé à vendre. Hein.
Ouais.
Sur le vide-grenier dimanche, là, je pense que...
Il y en a qui en font bon usage. On va dire ça comme ça.
Je sais pas, quoi.
Tu sais pas, oh là là.
Vas-y, je t'écoute, moi je saurais pas quoi choisir.
Mes Wabois, mes Oi Boys.
Ah, très bien. Tu les as vus à Toulouse ?
Ouais, je les ai vus à Toulouse, alors, je les ai vus aux Tanneries aussi. Mais c'était trop bien.
Bon,
c'était trop bien, c'était trop intense.
On pourra pas t'en faire dire du mal, j'ai l'impression.
Tu peux essayer, hein. Si, le seul truc que je peux dire, c'est
qu'ils
reviennent pas assez souvent à Toulouse, voilà.
Bon, mais alors, ça parle de quoi ce titre ?
Et ça parle, de la jeunesse, ça parle de l'ennui, ça parle des amis, ça parle de, des amis qu'on a plus, ça parle des amis qu'on a encore. Ça.
Et ça, ça regroupe deux de tes passions, la hoï.
Ça, la oie la et oie. Les bois. Bah, voilà, ça regroupe deux de mes passions, les mecs la et la oie. La
c'est tout à fait ça. Et la place, et sur la place.
Et je suis passionnée par les places, très bien, mais j'en apprends tous les jours.
Et le clavier, je voulais dire le clavier.
Ah ouais, mais il n'y a pas trop de oie dedans quand même.
Il n'y a pas Charlie Oleg. Il n'y a personne qui a fait un délire avec Charlie Oleg et la Colmar, personne ne connaît.
Chien perdu sans collier.
Oh. Charlie, si tu nous écoutes, désolé, on t'a oublié.
Il est tout seul.
Ouais, je suis tout seul sur
il
celui-là.
Il est tout seul.
C'est pas grave. Bon bah Waboy alors.
Ouais.
Et ça a rien à voir, tu sais quoi, je vais encore faire pire. Être tout seul. Tu connais les Watu Watu?
Non.
Ah bah voilà. Formidable. Eh c'est génial comme jeu. Je te balance des références. Et
vas-y.
En fait,
ouais.
Non
okay.
Mais il y avait les Watu Watu. Dans les Watu Watu, il y a des oies.
On se précipite à l'usine.
Bien fait, bien
quoi bien. En retard et on court à l'école. Aïe aïe aïe, le maître n'aime pas les retardataires. Au piquet. Tous ces gens qui s'agitent, ça donne le tournis. Et voilà, la vie est beaucoup plus agréable quand on prend son temps. Ah, ça y est, la famille Zoa a compris. Merci, Watu Watu. Grâce à toi, nous prenons le temps de vivre. Au revoir.
Peut-être eux.
Les oies... C'est peut-être eux.
Ben ouais.
Les Watu Watu, Boyou Boyou.
C'est peut-être eux. C'est les œufs des oies. Bon.
Oh, voilà, wow.
Là, on a fait le tour.
Avec le riz complet, on là, a bientôt.
Ah non, je vais pas le laisser. Je pense que je vais le couper le riz complet. Mais
non,
là,
mais non, laisse
on a parlé. Bon,
laisse le riz complet.
Je laisse le riz complet. Bon, les Waboy, bon, tu chantes.
Non.
Bon.
Je chante. Je chante
allez.
Pas ça. Non, mais c'est trop beau. J'ai pas envie d'abîmer.
Ok. Sur la place. Ils veulent pas venir ou quoi?
C'est le blanc.
Alors, où sont-ils? Attends, je les entends. Ah. Hey, mais la place, elle est loin.
Eh oui, ils sont dû venir à pied, je pense.
Eh ouais. Bon,
chut.
Nous
Sur la place, Jean Jaurès.
Waouh.
C'est aussi le dédicace à Jean. Non, mais à tout bon, ils sont énervants, quoi. Ils font que des tubes. T'as l'impression que c'est trop simple, en fait, de la musique, avec tous ces jeunes gens qui font de la cold oil, de la cold oie.
Mais on aime la cold oie. Enfin, moi, en tout cas.
Ouais. Ils parlent des béruriers noirs.
Eh oui. T'as entendu ça?
C'est une drôle d'idée, quand même.
Ils ont parlé des béruriers noirs.
C'est carrément ouf.
C'est des gens avec des références, quand même.
Ouais, je comprends pas trop, mais...
C'est un groupe de punk.
Alors écoute, tu veux lancer le débat sur est-ce que les béruriers noirs sont punk? Pour moi, wow. Les béruriers noirs ont tué le punk. Je reviendrai.
On m'a fait une blague de punk.
Ouais.
Le punk est mort le jour où le deuxième s'est fait la crête.
Merde, je comprends pas.
Bah, à partir du moment où il y a une deuxième crête, c'était déjà plus
bien
punk.
Bien joué, c'était tout à fait autre chose.
Ouais, bref, bon, voilà. C'est pour les puristes, on n'aime pas les puristes.
Et donc on a eu le temps de lire surtout toi toutes les brochures pendant la pause
agile.
Agile. Oh putain, celle-là je vais vraiment la couper.
Gilou, si tu nous entends.
Agile.
Au contraire, en suivant des méthodes agiles, le procédé est différent. Plutôt que de fixer un objectif lointain, ces méthodes séquencent le projet et avancent par étapes. Cela permet de mieux appréhender les imprévus en les traitant un à un et de se baser uniquement sur des cycles de développement relativement courts.
Bon, ça c'était terrible. C'est la private joke qui est...
Mais je pense qu'il faut la garder. Hein.
Faut la garder, la private joke. Non.
C'est agile. C'est agile, malin, ouais. Comme un singe.
Ouais, ça, on fait tard. Ça, je vais couper. Je vais tout couper, en fait. Et oui, donc, t'as lu une brochure sport et genre.
Alors, ouais, il y a un article de Jeff Clack que je me suis permis de mettre en brochure parce que j'aime bien imprimer des articles et les donner à des gens. Qui s'appelle Elle va trop vite, elle est trop musculeuse, elle est trop poilue. Et qui parle du genre dans le sport et surtout des j'ai perdu mes mots, j'ai trop parlé, voilà, c'est tout, j'ai plus de mots.
Des places.
Qui parle du coup des catégories genrées dans le sport, donc les hommes, les femmes, et dans la catégorie des femmes, qui sont donc une sous-catégorie dans le sport. Hein, il faut quand même donc l'article commence sur l'historique ouais. De l'arrivée des femmes au sport, qui ne sont pas arrivées tout de suite au sport et qui sont arrivées pour des raisons notamment de biologie, ou à l'époque où les gens pensaient que une personne forte ferait des enfants forts et que du coup pour avoir des meilleurs petits soldats il fallait que les meufs fassent de la course à pied pour enfanter de beaux enfants. Du coup cette brochure elle parle de la catégorie donc féminine dans le sport et de comment cette catégorie elle est définie, comment elle est gardée en fait par un ensemble de choses, notamment la perception genrée que les autres sportives, les entraîneuses, les entraîneurs et les sportifs aussi d'ailleurs et les spectateuristes peuvent avoir du corps des athlètes féminines. Et de manière assez glaciale, de manière biologique, avec différents tests au cours du temps. Donc là, on passe sur un truc un peu trash, avis aux personnes qui n'ont pas envie d'écouter, de pas de parler de ça, je vais passer très très vite, mais en gros, il y a des tests qui sont extrêmement transphobes, on va le dire, mais qui sont aussi très questionnants par rapport à qu'est-ce que la féminité et qu'est-ce que le genre, qui ont été faits sur les athlètes féminines pour être sûr que c'était bien
des femmes. Ouais.
Je mets des énormes guillemets, des vraies femmes, des surtout, parce femmes. Que déjà, elles font du sport, donc suspicion. Excuse-moi, elles ont des muscles, c'est peut-être pas vraiment des vraies femmes. Et du coup, en fait, cette brochure, elle retrace, entre autres, ça, à travers l'histoire de Caster Semenya, qui est toujours une athlète sud-africaine qui avait une hyperproduction de testostérone et qui a jamais questionné son genre d'aucune façon, qui a toujours vécu comme la fille qu'elle est, et qui en fait a été destituée de ses titres suite à une analyse chromosomique, je crois, en plus, c'est vraiment genre le truc.
Je te coupe deux secondes pour continuer sur l'historique,
oui,
justement.
Oui, pour reprendre là-dessus.
Ouais, voilà, parce que j'avais noté quand, pour la première fois en 66, au championnat d'Europe d'athlétisme de Budapest, des contrôles morphologiques et gynécologiques sont mis en place.
Mais tu les as sous les yeux.
Et oui.
Ah, tu triches.
Femmes doivent passer nues devant un médecin pour montrer leur appareil génital. Elles doivent aussi presser un dynamomètre et souffler dans un spiromètre afin d'évaluer respectivement leur puissance musculaire et leur capacité respiratoire, qui doivent rester en deçà des capacités masculines.
Voilà. Et donc après, ça va évoluer. Il va y avoir un test pour vérifier que les personnes ont bien deux chromosomes X. C'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte, ouais, qu'en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas deux chromosomes X, que ce soit chez les athlètes ou ailleurs. Il y a plein de femmes qui sont XXY, XXX, etc. Il y a plein de variations chromosomiques qui existent chez l'humain, et que du coup, regarder juste les chromosomes de quelqu'un, ça dit pas grand chose sur son genre et sur dans quelle catégorie elle doit concourir. Et après, il y a eu encore un autre test qui a été arrêté, je crois, dans les années 2000, genre c'est un truc vraiment hallucinant, sur la production de testostérone. Et qu'en gros, si on produisait plus d'un certain taux de testostérone et qu'on avait les récepteurs pour l'assimiler, parce que toutes les personnes qui en produisent ne l'assimilent pas pareil, à ce moment-là, on avait un trop gros taux de testostérone pour concourir avec les femmes. Voilà.
C'est pour ça que cette athlète sud-africaine, ouais, a été exclue, en fait.
Exactement.
Parce qu'elle sortait.
Et après, elle a été réintégrée. Enfin, c'est tout un feuilleton, en fait, autour
parce
de...
Parce qu'elle a refusé les tests. Elle est rentrée en conflit avec la fédération.
C'est ça. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que, par exemple, la testostérone, c'est aussi utilisé dans le dopage. Et du coup, en fait, il y a une question de est-ce que ton, entre guillemets, ton corps te dope naturellement et que du coup, tu pourrais pas être une vraie femme, quoi. Et tu pourrais pas concourir avec les femmes. Et ça, il y a vraiment un truc ultra compliqué enfin, je sais pas comment dire, mais que du coup, en fait, il doit y avoir une définition très claire de ce qu'est une femme et qu'elle doit rentrer exactement dans tous ces critères, sachant que pour les gars, bah, y a pas de test, quoi, parce que de toute façon, ils sont meilleurs en sport. Donc, en fait, le but du jeu, c'est d'avoir un précaré de personnes puissantes à un certain degré, qui seront les femmes, qui vont pouvoir concourir entre elles, et que dès que ces limites de puissance, enfin, du moins, les limites potentielles de puissance sont atteintes, on sort de cette féminité sportive et on arrive dans un inconnu qui fait que bah, on doit aller avec l'universel, le masculin, forcément. Voilà. Et du coup, il y a un contrôle des corps qui est très très fort donc, dans le sport, avec ces idées de catégorisation qui fait flipper et qui rappelle que notre société n'est ni égalitaire au niveau du genre, ni prête à quoi que ce soit par rapport à la transidentité, et encore moins par rapport, enfin encore moins, non pas encore moins, mais par rapport à la non-binarité, qui se pose encore beaucoup de questions. D'ailleurs, dans la brochure, à un moment, elle parle du fait que les athlètes trans qui ont fait une transition et qui sont sous hormonothérapie, etc., etc., en fait, qui ont un certain nombre de critères cochés, sont plus faciles à classer que les personnes qui ont une expression de genre un peu étrange, et ou qui ont des caractères intersexes, et ou qui ont des productions de testostérone qui ne correspondent pas à ce qui est attendu d'une vraie femme. Voilà. Du coup, c'est marrant qu'elle revienne sur le fait que ça pose plus de questions d'être à la limite et de remettre en cause la limite que de transgresser cette limite. Parce qu'au final, la transgression, une fois qu'elle est faite, elle n'est plus si transgressive, en gros, quoi. enfin en tout cas pour le sport, hein, je parle pas pour les personnes trans en général, mais d'un point, heureusement, ça serait horrible de dire ça, mais d'un point de vue sportif, ouais, pour l'institution sportive, c'est plus gérable de se dire tu pars d'un point A, tu vas à un point B, tu sors d'une catégorie pour aller dans une autre. Oui, on peut te catégoriser, alors que si t'es un peu comme ça, au bord de la catégorie qui est définie, bah ça leur convient
c'est
pas.
C'est rassurant, en fait.
Ouais, vois, quelque part.
Donc c'est validé.
C'est validable, clair, en tout cas.
C'est validable, voilà. Pas pour
donc,
l'institution.
Ça n'est pas tant que ça pour les personnes trans qui font du sport, en vrai. Hein.
Je sais pas s'il y a beaucoup d'exemples sportifs.
Voilà.
Au niveau,
vous êtes que je sais pas trop. Peut-être que la réponse elle est là. Si y a si peu d'exemples, c'est que il y a pas beaucoup de facilité pour le faire, quoi.
Et la conclusion que je vais lire en trichant toujours.
La triche donc.
Ouais. C'est qu'aujourd'hui le sexe biologique se présente comme un continuum avec de part et d'autre le sexe masculin et féminin clairement défini. C'est ce qu'on est en train de dire. Et entre ces deux pôles, alors il y a des situations intermédiaires, telles les individus intersexes, et d'autres représentations ont-elles été imaginées pour l'avenir ? En fait, c'est ce flou entre deux qui est plutôt... qu'il faut explorer et qu'il faut, qui est l'avenir, en fait, quoi. Et que les institutions... on est conscient.
Les institutions, elles aiment bien les trucs binaires. Parce que ça, il y a les nuls, les femmes, pardon, et les gens qui font vraiment du sport. Non, mais ouais, c'est intéressant. Mais en plus, ce qui est rigolo, c'est que du coup, tu as cité le début de la conclusion, qui est donc la question de l'intervieweur. Et la réponse de l'interviewé est super intéressante parce qu'elle cite Vincent, je sais plus comment, qui est une personne intersexe, qui explique que. Pour lui, la question de ce continuum, c'est aussi tracer un axe, et que tracer un axe, c'est dangereux parce que ça permet de mettre une limite à un endroit. Si on est en une seule dimension, ça permet de mettre une limite, et du coup, de graduer et de mettre un pôle positif et un pôle négatif, et que lui, il voit plus ça comme un archipel d'îles sur lesquelles il pourrait y avoir... plein de représentations différentes, et que dans les archipels, bah, on peut déjà au cours de sa vie naviguer entre les différentes îles, et que y a aussi des gens qui sont sur des îles qui sont très proches des nôtres, mais qui sont pourtant juste à côté, séparés par un petit peu d'eau, quoi, et qu'on n'est pas tous sur une ligne, et qu'il y a des gens qui vont avoir des expressions de genre, mais aussi je perds mes mots, une physionomie différente de la nôtre, et que en fait si effectivement on veut faire deux catégories, c'est très pratique d'avoir un axe et deux. Pardon. Je vais pas arriver à dire ce que je veux dire. si on a un axe,
ouais.
C'est très pratique de mettre une limite, par exemple un taux de testostérone endogène assimilé, et du coup de dire je vais retousser. Et du coup de dire avant cette limite c'est des femmes, après cette limite c'est pas des femmes, et du coup la notion de l'archipel elle est au moins bidimensionnelle, mais du coup elle permet d'éviter cette coupure et le fait d'établir un seuil de quoi que ce soit, que ce soit par exemple, on parlait tout à l'heure d'un dynamomètre. Que ce soit un seuil de force ou un seuil de production de testostérone ou d'assimilation de testostérone qui soit la limite.
Ouais, je voulais faire une petite parenthèse sur l'idée d'ambiguïté, qu'il faut réinvestir l'ambiguïté, le trouble. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Et je faisais un petit... Bon voilà, là je sors un petit peu du sujet sur le fait qu'on puisse pas en fait... définir le trouble et l'ambiguïté, et ça c'est bien problématique pour les universitaires, pour les chercheurs chercheuses en fait, et je trouve ça plutôt cool qu'on puisse pas définir quelque chose, un mouvement et une idée. Et là c'est une petite parenthèse, je veux savoir bon rapidement si toi par exemple ça pouvait te poser souci le fait que ce soit pas parce que tu bosses dans une bibliothèque où je suis sûr que t'es super, enfin bossé, en tout cas, tu sais, c'est référencé, il y a un ordre alphabétique, des thématiques, des trucs comme ça, quoi. Et là, imagine, on part de quelque chose, d'ambigu. Alors, quoi faire de tout ça, quoi?
Alors, bon, en ce moment, je suis plus trop à la bibli, ouais. Mais du coup, juste pour info. Au niveau du classement, par exemple, des livres et tout ça, il y a des livres qui vont dans trop de catégories. Par exemple, quand on parle de, je sais pas, un article qui pourrait s'appeler, j'ai un article en tête qui s'appelle un renouveau antifasciste venu du féminisme. Est-ce qu'on classe dans le féminisme ou dans l'antifascisme ? Et bah du coup, on a des livres voyageurs. Et de temps en temps, quand on les range, alors quand on les reclasse ou quand ils reviennent ou quand on les voit et qu'on se dit tiens ils sont pas à la bonne place, bah on va les changer de catégorie. On va mettre, je sais pas, par exemple des livres sur le féminisme noir et la décolonisation. Bah des fois ils vont être dans décolonisation, des fois ils vont être dans féminisme. Et c'est cool que des fois il y a des choses qui soient pas trop classables. Et qu'on puisse quand même les retrouver quand on les cherche. je dis ça pour les livres, parce que des fois, c'est bien qu'on ne puisse pas retrouver les gens quand on les cherche.
En tout cas, c'est
pense
une belle...
à Gilles de Caméra Silence, dont je n'ai pas mis de chanson.
Ouais, bah lui, ça va, t'es pas prêt de le croiser.
Non, ça va, mais il s'est quand même bien planqué, quoi.
C'est vrai,
il
c'est
est
vrai.
Fort, il est très fort.
Non, mais c'est une belle métaphore que le livre voyageur. Donc pour revenir sur le sport et sur cette obsession des catégories à définir avant de d'éternuer. Tu sais la différence entre éternuer et tousser, toi t'es du genre à le savoir.
Déjà le genre c'est de la merde. Voilà. Éternuer et tousser.
Ouais.
Mais éternuer c'est achou, mais tousser c'est cough cough, non?
C'est vrai, je sais pas. Je devrais le nombre de fois où,
si,
où on
crois.
M'a repris, j'ai oublié.
Ouais.
Il y en a un pense, qui vient de la gorge.
Si tu me fais les deux, je te dis lequel est lequel.
Ah, attends. Je saurais pas. C'est trop de pression.
T'es super fort en impro, vas-y. Éternuer.
Alors j'éternue.
Non, ça c'est tousser ça.
Mince, j'ai fait l'inverse, c'est pas possible. C'est quoi le
question? Eh ben non, mais je crois que tousser c'est genre. Et éternuer c'est.
Tchoum!
Voilà, tu vois, genre.
Bon, mais
des fois c'est mignon aussi les éternuements.
Tu le savais, t'as un collab même là-dessus. T'as sorti une brochure sur.
Non, j'ai pas sorti une brochure sur la morve pour l'instant.
La morve. Bah, c'est un sujet porteur.
Un sujet porteur. Un sujet collant mais porteur.
Donc,
gluant, pardon.
Tu... Oui, riz complet et pas riz gluant.
Et non, pas riz gluant.
Non.
Ce fil rouge me donne faim.
Et donc, tu disais, avant
de m'étrangler,
d'éternouffer.
D'éternouffer, voilà.
Avant d'éternouffer.
Bien, parce qu'on est en direct, il y a plein de gens qui nous entendent dire des conneries.
Dire éternouffer? Non, ça, c'est pas possible.
Mais surtout qu'en plus on va le mettre après sur les ondes.
Ah non, je coupe.
L'éternoufage?
Non, l'éternoufage, ça me fait rire, je l'ai.
Tu vois?
L'éternoufage, je vais même le noter, regarde.
Regarde, à côté de faire une Steph.
Exactement.
Il est vraiment en train de le noter, quoi.
Mais oui, alors éternoufage, c'est pour tout.
Tu mets un F ou deux F?
Éternoufage.
Alors ça dépend des écoles. mais j'en mettrais peut-être deux, moi. Parce que la grandiloquence, tout ça avec le F.
Ok.
Et tu veux pas nous terminer ta brochure là sur
la morve?
Ouais, non, sur le sport, tu sais.
Mais si, mais ça va. On a fini sur l'archipel, c'était cool.
C'est vrai.
Et l'archipel, c'était cool. On parle pas des dernières élections à Toulouse.
Ouais.
Bisous, pas bisous.
Et il y avait aussi cette idée, je sais pas, il s'est repris dans cette brochure sur les caractéristiques un peu esthétiques
En fonction. Ouais, c'était dans celle-là aussi.
Ah, celle-là. Okay. Et ça, tu maîtrises?
Moi, je maîtrise rien. Moi, je fais que c'est au talent, là. Oui, du coup, dans la suspicion, en fait, c'était ça qui était intéressant. C'est que, du coup, il y a une question de suspicion de fait que certaines athlètes ne soient pas des vraies femmes. Voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'une personne n'est pas une vraie femme? Déjà, elle se comporte pas comme une vraie femme. On sait pas ce que ça veut dire se comporter comme une vraie femme, mais visiblement, mettre du maquillage, par exemple, ça suffit. Ce que je fais pas, voilà. Donc pareil, encore une fois, j'échoue à être une femme, lamentablement. Je ne sais pas me maquiller. Sinon, je ressemble à un panda. Bref. J'ai essayé de mettre de l'eyeliner, c'était très drôle.
Mais les Batcave, ils ressemblent à des pandas aussi.
Oui, ah oui, mais ça, mais c'est classe. Ça demande des heures de travail pour faire un truc joli. Bon, bref, je parlais pas de ça à la base.
Qu'est-ce qui est classe, les pandas ou les Batcave?
Les deux. Imagine. Ah,
surtout les pandas, moi. Bon, pardon, excusez-moi.
Tu me dis ça parce que t'aimes pas la cold.
Ouais, aussi, c'est te dire, je préfère les pandas à la cold.
Les pandas qui mangent
Du riz, non?
Non, ils mangent du bambou, c'était pour voir si tu suivais. Mince. Bon, c'est pas grave. Ouais. Et du coup, on parlait de l'expression de genre et que du coup, en fait, il y a plein de gens qui ont des expressions hormonales qui sont pas 100%. Cohérente avec les taux qui ont été décrits tout à l'heure là dont on parlait, mais la plupart du temps on s'en rend pas compte parce que les gens qui sont assignés à un genre féminin la plupart du temps, hein, je suis bien placé pour dire ça, restent dans ce qui leur est assigné et notamment restent dans un modèle très hégémonique de féminité occidentale polissée avec des ongles peints et des jolis cheveux et du maquillage. Mais dès qu'on rentre dans le monde du sport de haut niveau, déjà on sort un peu de ça parce que par exemple avoir beaucoup de muscles ou être capable de faire des exploits physiques, ça rentre pas tout à fait dans les cadres de la féminité. Et si en plus on se maquille pas, on a les cheveux courts et que on a les ongles courts et que on cherche pas à plaire, et tout de suite il y a une suspicion de est-ce que on est vraiment bien une femme en fait à ce moment-là. Et donc en fait la plupart des recherches de caractère sexuel dans le sport se fait sur la suspicion d'autres athlètes, soit féminines, soit masculines, ou la suspicion des coachs, des personnes qui encadrent, etc., sur une lecture tout à fait européo-centrée du genre, de la pilosité faciale, et coucou l'épilation des sourcils, à la taille des ongles, la largeur des épaules chez les lanceuses de marteaux et autres. Et autres caractères dits féminins, quoi. Donc en fait, si on suit pas la mode hégémonique de féminité, on peut en plus se retrouver avec une mise en cause de notre genre qui aille jusqu'à une analyse visuelle de nos organes génitaux et une analyse chromosomique et une analyse hormonale pour être sûr qu'on produit pas trop de testostérone et qu'on n'en assimile pas trop. Donc ce à quoi en fait au final les personnes trans sont confrontées tous les jours, hein, on est d'accord, de cette remise en cause du genre, en tout cas toutes celles qui n'ont pas un passing tip top. Et du coup en fait cette redéfinition permanente de la féminité et cette demande de preuve de féminité, en fait, au final, aux femmes qui sont dans des catégories femmes, elle a aussi, elle a une grille de lecture autour de la féminité hégémonique européo-centrée de la femme qui se comporte d'une certaine façon. Et donc c'est une lecture qui est forcément raciste, classiste, tout ce qu'il y a de plus colonial, complètement dégueulasse, hein, faut le dire. Faut lâcher les gros mots comme ça. Comme de la morve dans du riz gluant.
Et ça passe les commentaires en direct, enfin je veux dire dans l'indifférence totale sur les tenues, l'apparence
des
sportives.
Et la remise en cause du genre, elle date pas d'aujourd'hui, la remise en cause du genre des sportives. On en parlait tout à l'heure, assis dans le caniveau tout à l'heure, comme des grosses blagues. On disait la blague sur les nageuses est-allemandes, c'est pas vraiment des meufs, t'as vu leurs épaules. Et qu'en fait, cette remise en cause de la meuf dans le sport qui doit finalement rester une meuf malgré le fait qu'elle est déjà dans un truc qui transgresse les limites de sa propre féminité. C'est quand même vachement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça vachement intéressant. Quoi.
Ouais, la brochure m'a fait prendre conscience de la merde que je peux aussi avoir dans la tête.
Après, c'est marrant parce que du coup, dans d'autres brochures, donc là, on parle d'une brochure où c'est une interview de Anaïs Bohuon, qui est sociologue du sport, qui a écrit d'autres bouquins et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses autour du sport et du genre. J'ai pas fait de bibliographie, mais je t'en ferai probablement parvenir une si tu veux.
Avec plaisir.
On peut chercher des trucs ensemble. Et du coup, dans les autres brochures, donc qui parlent pas du genre dans le sport, mais qui parlent des boxeuses. Enfin, là, en l'occurrence, les quelques brochures dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un autre point de vue qui est celui des boxeuses qui vont chercher elles à se féminiser, donc une analyse de leur comportement individuel, qui vont chercher à se féminiser notamment en dehors du ring, mais aussi lors des combats, par exemple avec tout ce qui est les tresses, les cheveux, laisser ses cheveux sortir du casque, etc. Avoir des équipements de couleurs dites féminines, etc. pour justement, tout en étant dans cette transgression des normes de féminité classiques, avoir une apparence, enfin garder une volonté d'auto-féminisation pour continuer à affirmer leur genre malgré la transgression. Moi, je trouve ça super passionnant, quoi.
Oui, c'est le côté, t'as le temps de la boxe en fait et le temps de la femme quelque part, puisque c'est surinvesti en plus là-dedans.
Et qui se rencontrent quoi dans les boxeuses où elles sont obligées de faire coïncider le fait d'être, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment très personnel comme vision des choses, mais d'être mal une femme parce qu'elles font un sport dit masculin, mais d'être quand même une femme avec cette recherche de féminisation de l'équipement, de l'apparence, etc.
C'est l'ambiguïté d'être à la fois dangereuse et attractive.
Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, bon, y a, dans le danger féminin, il y a un truc... Il y a des dangers qui sont intrinsèquement féminins. Tu sais, tous les trucs de guet-apens, de femmes fatales, de poison, par exemple. C'est un truc très de nénette, ça, quand même, historiquement. Mais... Ouais. Mais oui, il y a quand même ce truc de danger, de puissance, de force et de féminité qui fait que... Bref, c'est passionnant, désolé, je pars en cacahuète.
Est-ce que tu veux écouter un peu de musique? Bon, je barre Waboy, ça c'est fait.
nous cochons Wabois.
Il nous reste... on ne sait que choisir.
Eh bah, ben... Bon, on va mettre Desbordé, parce qu'on est genre on est encore dans le trouble, tu vois, parce qu'il y a quand même du synthé et il y a quand même des gens vénères qui crient.
Ouais,
donc
c'est grave vénère. Hein.
Ah ouais, franchement, ouais, c'est... Mais il y a du synthé, hein. T'aimes bien?
Bah, le chant, j'ai l'impression, tu sais...
Il est mieux que le synthé.
Non, mais on l'entend pas, le synthé, ou moi.
Tu n'entends pas le synthé. Tu vas lancer la track et tu vas te rendre compte que tu ne peux pas ne pas entendre le synthé.
Hey, tu veux pas le présenter
Non, tu m'as déjà fait la blague tout à l'heure, on ne fait pas ça.
Bon, d'accord. Bon, ça, c'est pour le happening.
C'était le happening gênant.
Qu'on n'a pas fait pour l'instant, bah ouais, t'as remarqué.
On a été gênant sur d'autres points, toi. Non. La gênance, c'est ça. Ouais,
c'est déjà passé. Alors, Desbordé, ya no quiero ser parte de este mundo.
Waiting out of the blue corner. Standing with trainer Nacho Berenstain, wearing black with red and green, officially weighing in at 143 pounds. His professional record, 61 contests, 54 victories, including 39 knockouts, with 6 defeats and 1 draw. He's a 4-division, 5-time world champion, Damas y Caballeros de Ciudad de México. Juan Manuel Dinamita Marquez.
Tout est dit là. Ah ouais, non.
Ah ouais, il y a du synthé. Hein.
C'est du saxophone, ça. Aïe, aïe, aïe.
C'est du violoncelle.
Ah, hey, violoncelle, mais voilà, je voulais faire un truc sur le... Oh là. C'est quoi, j'ai une question sur oui. Cette idée qui revient un petit peu trop souvent à mon goût. Je suis parti, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Non, sur la boxe comme sport populaire, genre il y aurait d'un côté un sport un peu ouvrier, tu vois, et d'ailleurs avec peut-être un idéal révolutionnaire, et puis peut-être un sport plus bourgeois, je sais pas quoi, traditionnaliste, capitaliste. Toi, est-ce que t'as un avis? Et j'espère que oui.
Ouais, ouais, j'ai un avis.
Cool.
Je sais pas si je te le dis.
Allez.
Allez, il y a pas l'émission. Ouais. Oui, et ben la boxe, oui, ça fait partie des sports qui sont, j'allais dire, facilement popularisables, mais c'est pas ça l'idée. C'est que la boxe est un sport très qui est très symbolique, qui est très fort, et que comme beaucoup de sports qui sont très symboliques et qui nécessitent un équipement assez minimal. Une paire de gants, une paire de protège-tibia, un short, un protège-dents et une personne qui sait faire la boxe, c'est mieux. Ça a une forte résonance dans la culture populaire, et du coup tout le monde sait entre guillemets ce que c'est que la boxe, et que c'est un sport qui est présent souvent à la fois dans la culture populaire et dans les clubs de sport populaire. À Toulouse, il y a au moins deux clubs de sport populaire qui font de la boxe. Il y en a probablement beaucoup plus que j'oublie, mais j'en ai deux en tête. Il y a le BLS qui propose de la boxe anglaise, et le Stock qui propose de la boxe française. Et du coup, c'est des clubs qui partagent les valeurs du sport populaire, du sport ouvrier, etc., etc., et qui sont donc accessibles à tous et à toutes, sans condition de revenu, avec une attention particulière du coup à intégrer les différentes personnes selon leurs capacités, etc., etc. Et c'est des clubs, le Stock, c'est un club qui a formé au moins une championne, quoi. Donc c'est pas des clubs... le sport populaire veut pas dire sport de mauvaise qualité, loin de là. C'est quelque chose de très ouvert, en fait, et il y a même d'autres initiatives de sport alternatif autour de la boxe, notamment le Dirty Boxing Club qui existait et qui existe toujours à Toulouse, qui est un club, enfin qui est pas vraiment un club en fait, qui est un cours de boxe autogéré où les gens viennent recevoir des cours dans l'autogestion la plus complète. C'est fort chouettos aussi. Et pareil, avec toujours une attention à qui sont les personnes, comment elles arrivent, dans quelles conditions elles sont, ce qu'elles peuvent faire. Et le fait de faire découvrir et faire pratiquer la boxe à tous et toutes.
Malgré tout, le fait de canaliser cette énergie et ces pulsions, est-ce que il te reste encore un peu de bouillonnement pour t'en prendre au symbole de l'État, pour t'en prendre je sais pas, au capitalisme ambiant
Je pense que justement
je parlais tout à l'heure du fait que moi, ça m'avait donné une liberté par rapport à mon corps et par rapport à tout ça. Je pense qu'en fait, moi, j'ai découvert ma violence physique en même temps que mes violences politiques. Et du coup, pour moi, les deux sont liés. Et du coup, je comprends ta question, mais du coup, mon parcours à moi, il est opposé. Il est dans le sens où, en découvrant l'opposition physique et en pratiquant l'opposition physique, je me suis renforcée aussi sur des postures même politiques, des postures de combat en fait. Ça paraît très grossier dit comme ça, et c'est pas forcément les termes que je voudrais, mais il y a un truc de savoir se poser dans un affrontement qui pour moi en fait est en continuité entre le sport de combat et l'opposition politique. Après, c'est pas forcément partout pareil, mais effectivement, ce que tu disais de canaliser une énergie, bon, du coup, j'imagine populaire à travers le sport, est-ce que c'est pas quelque part réduire la capacité de ces personnes-là à avoir un énervement ou à mobiliser cette même énergie contre le système de gouvernement, le patriarcat, etc., etc. Bah, a priori, ça marche, puisque c'est pas pour rien qu'on dit du pain et des jeux depuis fort, fort longtemps.
Ouais, le spectacle.
Le pestacle, voilà. Mais la pratique du sport en soi, je sais pas, enfin, Spartacus, c'était un gladiateur, il était de l'autre côté du pain et des jeux, lui, il était dans la télé à l'époque où c'était la télé, et il s'est bien énervé, quoi, quand même. Je sais pas si le sport en soi ou si la diffusion du sport peut enfin, moi j'ai l'impression que c'est un peu c'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu des gens qui voudraient que tout le monde soit révolté tout le temps, qui ont écrit ça en mode mais ils regardent le foot à la télé au lieu de faire la révolution. Et je sais que c'est pas ça, parce que je sais que l'auteur que tu cites, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sport, etc. Mais je peux pas m'empêcher d'entendre ça quand tu lis cette réflexion de...
Tu veux que je te cite cet auteur ?
Vas-y, cite-moi cet auteur.
Deux têtes. Hein. Ouais, tu ne vas pas croire que je suis en train de lire. Hein. C'est non, vraiment vas-y. Tout de
vas-y,
mémoire.
Fixe mes yeux. Non, tu baisses les yeux là, tu regardes ta feuille.
Alors attends, voilà, ça en fait comme ça.
Il lève sa feuille.
Alors attention. Le spectacle sportif est au sens fort une aliénation des masses. Il endort la conscience critique, l'occupe, la détourne en faisant rêver, en apportant un bonheur illusoire, fonction narcotique du sport. Il est un appareil de colonisation de la vie vécue. Très belle expression. Comme la religion, il est un opium du peuple, un dérivatif qui divertit et fait diversion, permet de scotomiser le réel. En sachant que je ne sais
pas. Moi non plus.
Je ne sais pas ce que veut dire scotomiser. Mais
attends, rigole. Je vais chercher sur Wikipédia.
Ouais, ça rigole pas. Non, c'est classe. Après, c'est peut-être...
Alors,
on ne peut pas être tout à fait en désaccord.
On ne peut pas être tout à fait en désaccord, on peut ne pas être tout à fait en accord aussi. Attends, je cherche scotomiser.
Scotomiser, ouais, vas-y, t'inquiète, on a...
Non, mais ça me plaît, ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la scotomisation ?
Ouais, vas-y.
La scotomisation, du grec scotos, ombre, obscurité, yes, désigne en psychologie l'une des formes du déni, un mécanisme de défense par lequel le sujet névrosé nie l'existence de faits qui ont été vécus mais qui lui sont intolérables. Il s'agit d'un processus de dénégation qui permet de, ouvrez les guillemets, ne pas voir, fermez les guillemets, des contenus, images ou souvenirs trop angoissants. Il y a la constitution d'un véritable scotome psychique sélectif, rétrécissant le champ de conscience, réalisant une amnésie bien circonscrite dans le temps.
Voilà, avis d'ordure, l'émission...
Avipédia. Voilà. Par rapport à ce que tu disais, on peut ne pas tout à fait être d'accord, je disais. Par exemple, je pense qu'il y a aussi une sociabilisation qui se fait autour du sport, que ce soit autour de la pratique ou autour du spectacle sportif, qui est une sociabilisation qui peut être tout à fait ouvrière, tout à fait populaire, tout à fait prolétaire. Enfin...
tout le monde regarde le foot, quoi. Ou le rugby, hein, des fois, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils regardent pas le foot et qu'ils regardent le rugby. Coucou les beaufs. Les beaufs de deux côtés, hein. Et non, mais du coup, je pense que c'est aussi important de se dire que on peut aussi recréer une sociabilisation populaire autour du sport et qu'il n'est pas 100% gangréné par le spectacle marchand comme le foot mercantile qu'on voit de partout ou le rugby qui est aussi mercantile mais qui dit moins bien son nom et les galas de boxe genre les trucs ou les galas de MMA où il y a des milliards et des milliards de milliards d'euros qui sont en jeu. Voilà. Mais du coup, le sport... je vais le dire en latin, comme ça je me la pète à mort. Le sport per se n'est pas mercantile, en fait. On peut en faire autre chose, quoi. On peut faire du sport punk. Voilà, je pense. Je suis sûr.
Ah bah,
non, je sais qu'on peut faire du...
Oh, c'est une super conclusion.
Bah oui.
Enfin, tu vois.
On peut faire du sport punk.
On peut faire du sport punk.
Et puis pire, d'ailleurs, je voulais rajouter aussi un truc dans son pestacle. C'est l'esprit national, quoi. Les coupes du monde là où il y a des drapeaux nationaux bleu blanc rouge partout là, moi j'ai envie de gerber à chaque fois que je vais dans la rue. Les gens qui se tartinent les joues avec les couleurs du nationalisme là, mais bref, ça me fatigue.
C'est clair.
Mais voilà. Pas de frontières entre les peuples, voilà, tout ça.
C'est rassurant, tu sais, c'est toujours cette histoire de petites cases, là, au moins.
Et oui.
T'as vu, hein. Puis tu penses pas à autre chose, tu penses pas à faire la révolution.
Mais ça, j'ai pas forcément d'accord avec le fait que si tu regardes le foot, tu penses pas à faire la révolution. Tu penses que le raccourci, il est bien facile, c'est un peu un truc d'intello, quoi. Je pense que tu peux tout à fait kiffer le foot et kiffer la révolution, tu vois. En fait, le sport reste du sport, quelle que soit la façon dont il est mis en scène. Je pense que tu peux avoir un amour très critique pour le sport de très haut niveau. Mais par exemple, est-ce que tu sais que le Barça, le club du Barça, il est propriété de ses supporters?
Ouais, les socios.
C'est quand même un club autogéré, quoi. C'est chelou, dit comme ça. Mais bon, il se trouve que c'est une espèce d'énorme mafia horrible. Mais il y a des clubs de sport quand même, genre par exemple le Sankt Pauli.
Sankt Pauli, ouais.
Voilà. On doit parler. Voilà, un club de foot allemand de Hambourg, Antifa, antiraciste, etc., qui évolue en deuxième division, je pense, un truc comme ça. Mais du coup, il y a plein de gens qui vont au stade, qui partagent l'émotion du stade, qui kiffent le sport à haut niveau, qui kiffent regarder du foot à haut niveau, et qui ont une conscience révolutionnaire. C'est pas antinomique, hein.
Bon,
pense à quelqu'un qui est hooligan la nuit et révolutionnaire le jour, et il est pas tout seul, ils sont pleins. Je pense à un bouquin, du coup je le dis, il y a un bouquin qui s'appelle Une histoire populaire du football de Michael Correra, et qui retrace du coup un peu tout ça, les clubs de supporters, les clubs de foot, etc. Populaire,
voilà. C'est pas un gros mot, un truc à rajouter.
Plein de choses.
Ouais.
Mais il faut pas, il faut qu'on arrête l'émission à un moment.
Mais ouais, on a...
Mais si, en fait, je voudrais juste finir sur le sport punk, parce qu'en fait, on a commencé là-dessus.
C'est vrai.
Et alors, déjà, big up à tous les punks à roulettes.
Ouais.
Parce que c'est important.
C'est vrai.
C'est quand même une grosse partie du sport punk. Et big up à tous les coreux qui pensent que la salle de sport, elle est aussi dans le pogo. Et du coup, je pense qu'en fait, on peut se réapproprier plein de trucs et que oui, effectivement, en fait, on peut avoir une pratique punk du sport. Parce qu'en fait, comme il y a une pratique punk de la musique qui prend ce qui nous plaît et qui laisse ce qui nous plaît pas et qui invite tout le monde... prenons ce qui nous plaît dans le sport, prenons les valeurs qui nous plaisent, laissons de côté les trucs qui nous plaisent pas, et continuons à faire du sport pour nous, pour nos potes, pour ce qu'on aime, pour se retrouver soi aussi, pour avoir notre petit moment de... on en a pas trop parlé, mais en fait, si on fait du sport aussi, enfin moi en tout cas, si je fais du sport, c'est parce que j'aime ça, genre ça me procure vraiment du plaisir, comme quand j'écoute de la bonne musique, quoi. Et du coup, je pense que c'est aussi un truc très important dans le punk, c'est ce côté fais-le même si tu le fais mal, parce que de toute façon, ça te fait kiffer, ça fera kiffer d'autres gens, et Mais voilà, faites de la boxe do it yourself, apprenez à faire des trucs, faites du sport avec vos potes ou vous faites dans tout seul, mais faites des trucs qui vous font kiffer, quoi. Et voilà. Si vous voulez pas en faire, n'en faites pas et faites pas chier les gens qui n'en font pas, s'il vous plaît.
Voilà, lâchez prise et puis voilà, faisons ensemble des expériences, réussies ou pas. L'important c'est de faire quoi qu'il se passe.
Voilà. Et sinon, comme on dit, fais-le toi-même ou laisse le capitalisme le faire pour toi.
C'est vrai, on dit ça ?
Ouais. Y a un
sinon,
sticker.
Le capitalisme le fera pour toi.
Ouais. Voilà, il y a un sticker comme ça qui est très cool.
Bah écoute, vraiment trop sympa à toi d'être venu.
Eh ben merci à toi de m'avoir invité.
T'as trop assuré.
Mais parce que j'aime parler.
Bon, non, mais c'est vraiment trop cool. J'adore ce genre d'émission. Merci.
Et merci à toi.
L'émission de Jean en tête, c'est ça, vraiment. Et ça m'a aussi comblé et fait plaisir. Donc,
oh,
ça
le fait,
c'est cool.
En donc, plus, on a inventé un nouveau mot et tout.
Eh ouais, alors attends, ainsi s'achève.
Avis d'ordure 13.75.27
ouais, 722 7.1.2 on se retrouve si tout va bien dans 15 jours on sera en plein mois d'août, je sais pas trop peut-être, ouais. Je sais pas, bon, on verra
non parce qu'en fait on est le 14 juillet donc on sera
en juillet et d'ici là, restez éternoufade trouble, archipel livre et corps voyageur et continuité entre sport de combat et combat politique.
Et restez tout ça, mais surtout concentrez-vous bien. Hein.
Et éternoufade.
Et éternoufade.
Salut.
À tes souhaits.
Ouais. Ah. Bon, j'ai préparé plein de trucs, tu reviendras. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Allez, salut.
Allez, ciao. Bye.
Quelle idée de l'homme avez-vous ?
Eh bien, cette fois, Fordrade gêne les Blancs plus que les Noirs. Parce que pour les Noirs, je peux vous assurer que ça leur donne un sentiment de confiance. Parce que n'oubliez pas que nous sommes les inférieurs. Et eux sont fiers de voir précisément un de leurs frères en train de dire aux gens ce qu'il a à leur dire. Parce que, bon, à Paris, en Angleterre, en Amérique, partout, les Noirs ont l'impression d'être traités comme des animaux. Alors c'est une revanche pour eux quand ils me voient. C'est une inspiration pour eux. Vous, bon, vous n'aimez pas beaucoup ce genre de fanfaronnade parce que vous vous dites quel est ce noir, quel est ce noir qui ouvre sa grande gueule. Non, nous lui avons jamais appris à se comporter de la sorte. Nous nous avons fait des esclaves de gens comme ça. Nous n'avons jamais appris à ces gens-là d'être fiers. Non, parce que tous les modèles, tous les mannequins sont des femmes blanches, on le sait bien. Et Jésus-Christ, tout le monde est blanc, tout était blanc. Alors quel est ce noir qui subitement se permet d'ouvrir sa grande gueule pour dire qu'il est le plus grand? Alors ça vous gêne.
Pas le Krav Bocal, comment? C'est pas ça.
Non, le Systema. Le mais oui, système. Je pense que si un jour il existe un sport qui permet de se défendre dans les pogos, on pourra appeler ça du Krav Bocal. Pas de soucis.